France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Roger Muraro. Je suis né le 13 mai 1959, près de Lyon. Je joue du piano.
Roger Muraro, Yvonne Loriot, élève en composition de Darius Milhaud, élève en analyse en même temps que les Boulez, etc., d'Olivier Messiaen. Et elle devient en 1961 l'épouse d'Olivier Messiaen. Donc vous, élève, depuis la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, même si vous nous disiez que toute la vie resterait son élève, pendant toutes ces années-là, il va quand même se passer une relation peut-être plus proche qu'avec d'autres élèves de la classe d'Yvonne Loriot, qui va vous faire rencontrer également Olivier Messiaen et rentrer quand même dans l'intimité de ce couple-là, d'aller passer vos étés aussi en leur compagnie. Comment vous vous souvenez de la première rencontre avec Olivier Messiaen ?
La première rencontre, non pas physique, mais musicale avec le compositeur, s'est produite alors que j'avais seulement 16 ans. J'étais encore élève de piano dans la classe du Sissi-Bossard à Lyon, et à l'occasion d'une de ses auditions d'élèves, elle m'avait demandé de jouer l'un des pianos de l'œuvre pour deux pianos que Messiaen avait écrite, qui s'appelait « Les visions de la Maine ». Je faisais là le piano numéro 2, c'est-à-dire le piano que Messiaen lui-même jouait quand il était en concert avec Yvonne pour cette œuvre-là. Et là, je dois dire que j'avais très, très, très impressionné par le très ému, d'une part, parce que les harmonies étaient extrêmement suaves, extrêmement chantées. Il y avait un lyrisme qui se dégageait. Et à l'intérieur de ça, il y avait une modernité de langage, mais qui n'était pas difficile à appréhender. Ah oui, on l'entendait, le canon rythmique, bien sûr, il le marquait. Donc c'était très, très clair comme structure. Il y avait une expression qui se dégageait très facilement de cette œuvre-là. J'ai donc immédiatement accroché avec cette œuvre-là, et c'est, voilà, j'avais 16 ans à peu près, j'avais 3 ans de piano. Et j'entre dans la classe Yvonne Loriot, la première audition d'étudiants, des élèves de la classe Yvonne Loriot qui se passait dans la salle Berlioz du conservatoire qui était à l'époque rue de Badrine. À cette première audition, j'ai joué un regard de Messiaen, le regard numéro 10, l'esprit de joie. Et Messiaen accompagnait toujours Yvonne Loriot à l'occasion de ses concerts d'élèves. Alors j'ai joué le regard de l'esprit de joie, plutôt bien je crois, enfin je me souviens. Et puis à la fin du concert, Messiaen s'approche timidement de moi, avec les mains un peu croisées, comme ça, avec beaucoup de douceur. Elle me dit « Oh, écoutez, c'était très bien, je vous remercie beaucoup. » Messiaen qui me disait merci. Alors, bon, avec mes espèces de naïveté comme ça, enfin, il m'a fallu longtemps pour réaliser qui était en face de moi. C'était Olivier Messiaen, c'était le grand compositeur, mais c'était le mari d'Yvonne Loriot, avec qui je m'entendais bien. Enfin, voilà quoi, donc j'ai joué ce regard d'esprit de joie, j'ai joué après un peu plus tard d'autres pièces, mais très peu au fond, parce qu'Yvonne Loriot n'était pas de prosélytisme non plus. Évidemment qu'elle faisait travailler des Messiaen de temps à autre dans sa classe. Bref, en 1981, je préparais le concours international Franz Liszt à Parme, et c'était l'année où je venais d'avoir mon prix de piano au Conservatoire de Paris. Donc à l'été 81, je préparais ce concours et Madame Loriot me dit Oh bah écoute, viens faire ta générale chez nous, à Petit Chais, près de Grenoble, tu verras, c'est très beau. Tu arriveras en fin de matinée, tu déjeuneras et puis dans l'après-midi, on travaillera. Ça, c'était le premier contact près de Grenoble, donc dans cette résidence d'été où mes sciences se retiraient pour travailler, pour composer au calme. Enfin, il devait y avoir juste un téléphone. Enfin bon, c'était extrêmement spartiate hein, comme équipement, il faut bien dire. La salle de bain était un peu douteuse. Enfin, il faut s'imaginer que seulement une dizaine d'années avant, auparavant, il n'avait toujours pas l'eau courante dans la maison. Enfin, vous voyez, c'était Yvonne Loriot montait avec les seaux pour chercher l'eau au puits. Enfin, en bottes de caoutchouc. C'était... Mais cet endroit est sublime. Il y a la montagne du Grand Cerf, il y a les lacs, il y a ce grand pré en pente avec la maison de Messian tout à fait en bas de ce pré et un chalet en haut du pré. Les deux maisons sont éloignées de 100 mètres à peu près. Il faut traverser le pré comme ça à pied. Enfin, Yvonne Loriot travaillait le piano au chalet en haut, mais si on composait là en bas, pour communiquer, ils avaient un talkie-walkie l'un avec l'autre. Allô Olivier, alors est-ce que c'est bon, je peux descendre déjeuner? C'était vers 14h. Enfin, la vie là-bas n'était pas du tout rythmée de la même manière que la vie parisienne, bien entendu. Moi, j'arrive là pour travailler un programme uniquement de Franz Liszt, au déjeuner, après le midi. Yvonne Loriot avait préparé le déjeuner, déjà. Alors, c'était des courgettes farcies énormes, comme elle cuisinait pas très bien, hein, faut bien dire. Mais, et puis surtout, Yvonne Loriot vivait à 200 à l'heure, et Messiaen vivait à 40 à l'heure, quoi. Alors, ce qui fait qu'elle avait terminé son plat, et qu'il avait à peine commencé l'entrée. C'était très amusant de voir comment elle pépillait, et comment lui, très doucement, s'exprimant avec calme, je me disais, mais quel drôle de couple ils font tous ces deux-là quand même, parce que je n'arrivais pas à trouver quel était leur point de rencontre. Hormis
la musique.
Le fait que l'une était d'une vivacité extraordinaire et apprenait tout en un rien de temps ce que lui lui suggérait, et que lui avait une puissance de travail comme elle, absolument phénoménale. Je les ai côtoyés pour la première fois, mais de manière très très différente de ce que je voyais au conservatoire. Ils venaient donner ses cours à la salle Massenet, juste à côté il y avait la salle Pugnot, où Messiaen donnait ses cours d'analyse. Il arrivait très rarement que Messiaen traverse le couloir pour voir Yvonne Loriot en disant « J'ai l'œuvre d'un jeune compositeur qui est très intéressante, est-ce que un des élèves pourrait peut-être se plonger là-dedans » Enfin, mais c'était très rare, si vous voulez, il y avait tout de même... Voilà.
Et là, nous écoutons des chants d'oiseaux ensemble. Parce que moi, je note avec un crayon et du papier à musique, mais ma femme enregistre. Et je fais après une deuxième notation d'après l'enregistrement. Alors, la deuxième notation est plus fidèle, la première est plus artistique.
Et vous aimez jouer ce rôle de...
De femme d'ornithologue, ah oui, il m'a appris mon métier. La première fois qu'on a entendu des oiseaux, je ne savais pas du tout qui chantait, mais il m'a dit, c'est un merle, c'est un rouge-gorge. Et je veux dire, une fois, je n'avais jamais entendu un courlis. Et Messiaen avait écrit dans le catalogue d'oiseaux le courlis cendré. Nous étions en plein centre de la France. Messiaen notait à 50
dans les Causses.
Dans les Causses.
Dans les Causses, un endroit où il n'y a pas d'oiseaux des côtes marines, bien entendu.
Alors je me précipite vers lui, je lui dis, j'ai entendu un courlis. Mais non, mais non, mais non. Là,
je lui dis, non, c'est idiot, il n'y a pas de courlis dans cette région.
Dans cette région. Et puis tout à coup, il notait, je le vois à l'œil et la tête. Tu as raison, c'était un courlis. Je n'avais jamais entendu cet oiseau.
C'est un courlis en migration.
Il avait tellement bien noté en musique, pour le piano, que je l'ai reconnu.
Qu'elle l'a reconnu. Enfin, je suis très fier, ouais.
En 82, recommencer l'expérience. En 83, idem. Je venais d'entrer en classe de troisième cycle à nouveau chez Yvonne Loriot. J'étais resté 2 ans un peu en freelance, n'est-ce pas, après mon prix du conservatoire. Liliane Richemin m'avait vraiment la soutenue pendant cette période un peu difficile. 1983, c'était aussi, à l'automne 83, c'était la création de Saint-François d'Assise à l'Opéra. C'est un moment que je garderai toute ma vie.
Donc Saint-François d'Assise pour les auditeurs de France Musique, c'est opéra fleuve d'Olivier Messiaen.
Yvonne Loriot, les Messiaen m'avaient offert une place en loge magnifiquement placée, je me souviens. Je me souviens même qu'en sortant de la représentation, j'avais enregistré 2 passages de mémoire absolument sublimes, qui étaient le moment où le long de Martenot chante la mélodie de l'ange musicien sur cet accord en do majeur soutenu par les bouches fermées du chœur et les cordes en sourdine. C'est extraordinaire ce moment d'élévation. Et puis les accords la do, la mi, la ré sol do, cet accord dans le grave très sombre avec les trombones, avec où la mort commence à grignoter, j'allais dire, le Saint-François d'Assise. Et je me souviens qu'à la leçon suivante, j'ai dit à Malorion, et puis les accords du baiser au lépreux. Je me souviens que j'avais dit à Malorion, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oh, je me dis, mais comment? Je te les réécrirai. J'avais évidemment fait quelques fois ça, mais les complexes d'accords de Messiaen sont tellement... En 86, je termine mes études au conservatoire en passant le concours de Tchaïkovski à Moscou au mois de juin. Le concours, c'était un moment évidemment inoubliable pour moi, ça. Je veux dire, c'était un grand moment dans ma vie.
1986, donc Moscou, on voit des vidéos, Roger Muraro, où on vous voit jouer et on voit à la fin des femmes qui vous apportent des fleurs.
Oh là là,
vous jouez. Et vous jouiez justement Messiaen.
Et j'ai, dans cette épreuve récitale, avant la finale où il y avait le concerto de Tchaïkovski pour le si bémol mineur et puis le concerto pour la main gauche de Ravel que j'avais préparé, il y avait dans cette épreuve récitale la 2e sonate de Rachmaninov et le baiser de l'enfant Jésus, entre autres. Les Russes, d'abord, sont des gens qui s'enflamment très vite. Quand ils sont séduits, ils partent. Ils partent dans la rêverie, ils sont capables de plus grands élans. Quoi. C'est... Alors quand quelqu'un leur plaît, ils le manifestent. Au plein milieu du concours, je joue le baiser de l'enfant Jésus. Mais on a dû attendre pendant l'épreuve, je ne sais pas combien de minutes, que les gens arrêtent d'applaudir pour que je puisse continuer. Alors moi, j'étais là. J'en ai encore une émotion parce que c'était très très beau. La musique de Messiaen n'était pratiquement pas jouée là-bas. Et quand elle était jouée, les titres étaient changés. Le regard de la Vierge, c'était le regard de la mère. Le baiser de l'enfant Jésus, c'était le baiser de l'enfant. Toute référence, bien qu'à l'époque déjà, ce soit le mouvement de la perestroïka qui était lancé, Gorbatchev essayait d'ouvrir les choses. Alors, ces Russes de l'époque, enfin, avaient soif aussi d'une nourriture qui était... malgré tout, jouer au compte-gouttes, surtout dans les compositeurs modernes, contemporains. Et Messiaen arrivait avec la possibilité dans sa musique de déployer une générosité, mais fantastique. Enfin, je veux dire, c'est une dimension expressive sur toutes les palettes qui est immense. Alors les Russes ont foncé là-dedans, enfin bon. Et je continue et je termine par la 2e de sonate de Rachmaninov. Alors là, en plus, c'est une œuvre vraiment que je crois que je jouais bien. En plus, le français joue notre musique, il la joue bien. Mais pouvais plus marcher en sortant du concours. Enfin, mais c'est les chocolats, les fleurs, les signatures, les machins. Mais je, vraiment, je me serais cru sur les marches du Festival de Cannes. Enfin, voilà. Isabelle Gianni qui monte les marches du Festival de Cannes. C'était vraiment très impressionnant. Et Messiaen a tellement marqué les esprits là-bas. C'était Anna Nikolaïeva qui était au concours et puis qui était présidente du jury de la partie Est, n'est-ce pas? C'était entiché de moi. Enfin, c'était vraiment, c'était très touchant. Je reviens de Moscou avec une situation personnelle un peu difficile. Enfin, je venais d'apprendre que j'allais être papa et que la banque me coupait les vivres. J'avais un interdit bancaire. J'avais pas un concert dans les 3 mois qui suivent. Enfin, une situation difficile à gérer.
Les grands entretiens de Roger Muraro, France Musique.
Je reçois un coup de téléphone d'Olivier Messiaen pour me féliciter évidemment du concours. Et me dit, ben voilà, Michel Béroff a un petit souci de santé, il est obligé d'annuler son concert et dans 5 semaines, il devait jouer au Festival de Bonn en Allemagne, un récital avec mes œuvres. Il y a les préludes en entier. Il y a les 4 études de rythme et un livre du catalogue d'oiseaux. Est-ce que vous accepteriez de... Alors, Messiaen me posait cette question-là, j'ai dit, mais maître, bien entendu, mais 5 semaines, je fais... Oh, mais écoutez, vous viendrez, petit chef, vous resterez quelques jours, et c'est moi qui vous entendrai cette fois. Donc, je me plonge dans ce travail.
Vous n'aviez pas tout dans les doigts.
Je n'avais rien. Je ne connaissais aucune de ces œuvres-là. J'arrive à Petit-Chais, je me prépare et je vois Messiaen arriver avec son tempo de marche, n'est-ce pas, très calme. N'est-ce pas. Alors je lui joue les préludes, alors le prélude, tout va bien. Alors il me dit, oh, vous savez, c'est important, faites attention, j'aime bien entendre toutes les notes de mes accords. C'est des complexes sonores et chacune des notes participe, n'est-ce pas, de la couleur. Alors si une note me manque, je ne vois pas tout à fait les couleurs que j'ai voulu. Voilà, c'était ça, sa remarque sur les préludes. Je lui ai joué le catalogue d'oiseaux, il m'a dit très intelligent, c'est tout à fait ça. Ah, cependant, vous ferez attention quand même, la Lulu, l'Alouette Lulu, c'est un oiseau tellement charmant, me dit-il. Vous comprenez, vous, c'est plus abandonné. Puis alors je reprends, dire oui, mais c'est peut-être, vous savez, comme du Chopin, c'est une arabesque à la Chopin. Puis alors, la notation Messiaen est tellement précise que, voyez-vous, je ne pouvais pas imaginer que pour un chant d'oiseaux, on puisse s'exprimer avec autant d'abandon, j'allais dire, ou de souplesse. Et je me suis dit, Messiaen a écrit les choses, mais il faut inévitablement entendre le caractère qui ne peut malgré tout pas être totalement retraduit par le signe. Il faut entendre ce que le symbole, le signe symbole peut vouloir dire. Il faut interpréter. Et ça a été sa première grande leçon. Il y a un double aspect, je dirais, dans la musique de cet auteur. Il y a l'aspect philosophico-religieux. Et cet aspect-là, il est difficile de l'aborder. Parce que ça touche à une intimité qui, à mon sens, n'a pas lieu d'ailleurs d'être dévoilée. Et après ça, il y a l'aspect purement piano, lié au texte musical. Parce que le piano de Messiaen n'est pas non plus le piano de Debussy. C'est un piano plus charpenté, plus acidulé aussi, plus vif. Ça n'est pas non plus le piano de Chopin. Ça n'est pas non plus le piano de Bartok, ni de Liszt, ni de Ravel ou de Debussy. Le piano de Messiaen, c'est tous ces pianos-là à la fois. Alors tous ces aspects-là doivent de plus être, intégrés a une finalité, je dirais, expressive. Et je pense vraiment que cette musique-là doit n'échanger que des symboles. Et que, évidemment, il y a un texte à respecter, et ils font passer par ce canevas extrêmement précis. Une fois que cette structure est établie, il faut aller au-delà. Et le silence est peut-être rallongé, et bien tant pis, si la valeur de silence est habitée, elle sera juste. Elle sera juste. Soir, je descends de ce chalet, je me partais le lendemain, je viens de dire au revoir au couple, Messian, et en descendant, je regarde et la montagne du Grand Cerf était une montagne où il y a très peu de végétation, les arbres, il n'y a pas d'arbres, c'est presque rocailleux, enfin, c'est une montagne pelée, comme on dit. Et le coucher de soleil jetait sur cette façade de la montagne une couleur rose, mais un rose, mais splendide. Je rentre dans la maison Messian en bas. Yvonne Loriot me dit, ah ben, il est encore à sa tête de travail, mais je vais Je rentre dans le Messian, était là, plongé dans je ne sais plus quel ouvrage. Et j'y mets que la montagne est rose. Il avait décrit ces couleurs-là dans La Fauvette des Jardins, justement, cette grande pièce de piano. Messian se lève, ouvre la fenêtre et voit le rose. Il me dit, ah non, c'est pas tout à fait rose, il y a quelques... Puis les yeux étaient comme ça, mais en admiration. On était le 13 juillet et à ce moment-là se met en route la batterie fanfare qui fêtait les bals musées de machin. Cette musique arrive en plein visage au moment où Messian, Loriot et moi-même on était en contemplation devant cette montagne rose. J'ai vu la pupille de Messian grande ouverte se fermer. Il a fermé la porte. Puis bon, c'était au revoir. Et puis mais toute la magie du silence, de ce silence d'où tout naît, si vous voulez. Hein, ben voilà, c'est un petit souvenir touchant de la sensibilité, si vous voulez. Les Messiaens, au fond, je les ai connus plus comme ça. J'ai joué beaucoup de ses œuvres. Aujourd'hui, je me dis, mais quel idiot j'ai été de ne pas lui avoir posé des questions sur telle chose, telle autre. C'est trop tard. Bon, j'ai non pas appris Messian, je l'ai connu.
L'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Myung Woon Chung, avec en soliste Catherine Quentin, Heinz Holliger, Yvonne Loriot et Mstislav Rostropovitch dans la vocaliste d'Olivier Messiaen. C'est la fin du quatrième épisode des Grands Entretiens avec Roger Muraro. Réalisation Marie Gros, prise de son Yann Frécy, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Marion Guillemet. Rendez-vous demain à 13h pour la fin de ce portrait et quand vous le souhaitez sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.